Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Paloma Soria-Brown et Ise Tsikar. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la technique, Thibaut Nassim Ben. Aujourd'hui, nous retournons le temps d'une émission dans les salles obscures.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
C'est une épreuve inédite et hautement périlleuse que traverse aujourd'hui le secteur de la culture, frappé de plein fouet par la crise sanitaire. À l'annonce du confinement, pas moins de 6000 salles de cinéma ont fermé leurs portes dans l'Hexagone et des dizaines de tournages ont été brutalement interrompus. Un coup dur pour l'audiovisuel tricolore qui redoute notamment un retour tardif des Français dans les salles. Alors comment sauver un secteur déjà fragilisé par l'arrivée de redoutables concurrents nommés Netflix et Disney+ ? C'est la question qui va nous occuper jusqu'à 15h. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans votre magazine d'économie. Pour réfléchir à l'avenir de la création française, nous avons invité une productrice de télévision, Simone Harari-Beaulieu, fondatrice du groupe Effervescence, et une économiste, Joëlle Farchi, professeure à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien à distance. Nous sommes chacune chez nous, reliées uniquement par le son. Et d'abord, commençons par ce constat. Le cinéma et l'audiovisuel font partie des secteurs économiques qui souffrent le plus aujourd'hui, Simone Harari-Beaulieu.
Alors, oui et non. Il est vrai que la création, les tournages, les nouvelles émissions sont à l'arrêt. Mais la télévision, contrairement aux salles de cinéma, se regarde chez soi. Et rarement, on a été aussi nombreux devant celui qu'on appelait encore le petit écran, avant qu'il y ait plus petit que la télé, l'écran du téléphone. Et clairement, ceux qui avaient pronostiqué la mort de la télévision ont vu leur thèse totalement démentie, puisque tout le monde s'est mis devant son poste de télévision, sur les chaînes d'infos bien sûr, sur les grandes chaînes qui ont des scores d'audience très importants en termes de nombre de téléspectateurs, et bien sûr sur les nouveaux services type Netflix, Amazon et autres Disney qui ont enregistré des grands succès en termes d'abonnement.
Mais c'est ça qui est assez paradoxal, Simone Harari-Beaulieu, parce que la télévision a effectivement bénéficié du confinement en termes d'audience. On estime que c'est les Français ont regardé 4h43 par jour en moyenne à la télévision contre 3h28 à la même période l'an dernier selon Médiamétrie. En revanche, les recettes publicitaires ont chuté.
Alors voilà, c'est pour ça que c'est important quand même de pas seulement commencer par le catastrophisme. Les deux mois qu'on vient de passer ont été des mois où la télévision a formidablement rempli sa vocation, où les usages ont été démultipliés et où à la fois le plaisir de regarder des images et celui de les regarder ensemble a manifestement été pleinement exploité. Alors, la création, c'est très difficile, le financement, c'est très difficile, et les conséquences vont être beaucoup moins joyeuses. Mais profitons quand même du constat qui est très positif et que celle que on méprisait un peu comme de la vieille télé, il était de bon ton de penser que, en gros, les services de vidéo à la demande, en particulier Netflix, avaient démodé tout ça et que c'était plus que les vieux. Eh bien non, la télé, tout d'un coup, quand on a besoin d'être rassuré, quand on a besoin d'être informé, en étant chacun chez soi, d'être ensemble, eh bien, la télé, ça marche.
Joëlle Farchi, du côté du cinéma, vous dresseriez-vous aussi un constat un petit peu partagé, comme Simone Harari-Beaulieu ?
Je pense qu'il ne faut pas opposer télé et cinéma, mais il y a effectivement les aspects absolument dramatiques de la sortie culturelle dans les salles, dans les théâtres, dans les festivals de musique, qui sont les victimes incontestables de la crise, comme d'autres secteurs d'ailleurs, et pour lesquels des mesures d'urgence devront être prises, quoi qu'il en coûte, pour reprendre la formule désormais consacrée. Et puis à côté de ça, il y a une autre culture, la culture à domicile, qui effectivement a profité de la crise à travers des services de télévision classiques, de la vieille télé classique, et puis des nouveaux services. Et en réalité, ce que le confinement a vraiment mis en lumière, c'est une tendance qu'on connaissait déjà depuis longtemps, qui est le fait qu'il y a deux secteurs culturels en particulier dans lesquels les pratiques en ligne à domicile sont déjà bien ancrées, qui sont le secteur de l'audiovisuel et le secteur de la musique. Et dans ces deux secteurs-là, il est vraiment un peu réducteur d'opposer, disons, ce qui est dans l'imaginaire collectif après le confinement, c'est c'est-à-dire la bonne culture, celle qui correspond à des sorties, et puis la mauvaise culture, celle sur son canapé, affalée avec sa boîte de chips. D'abord, il y a eu des initiatives, on a vu, extrêmement formidables. Il y a eu une créativité formidable, des concerts, la cinémathèque qui a donné des rendez-vous le soir, des danseurs qui ont fait des chorégraphies. Il y a vraiment des initiatives en termes de créativité avec le confinement sur les pratiques en ligne qui se sont multipliées. La tendance de la culture à domicile, elle n'est pas nouvelle. Elle date des années 70-80 avec l'essor de la télévision. Et puis, ce qui est important, c'est quelles formes de relations avec le public peuvent se nouer en ligne, pour quel type d'œuvre et comment ces formes de relations peuvent se prolonger à l'extérieur pour certains spectateurs, mais aussi comment ça peut ouvrir d'autres spectateurs à des œuvres qu'ils n'auraient jamais vues autrement, notamment les jeunes qui ont effectivement tendance un peu à déserter les salles. Et puis dernière chose, j'aurais tendance à dire qu'il y a une chose très importante, c'est la concurrence entre les offres à domicile qui ont des propositions variées. C'est-à-dire que dans l'audiovisuel, il y a bien sûr les chaînes classiques, mais il y a aussi à l'intérieur de cette grande famille des services en ligne, les propositions de Disney, d'Universciné et de Main de Salto n'ont pas du tout les mêmes publics cibles, et je trouve que c'est très bien comme ça.
Il va falloir effectivement réfléchir à cette alliance peut-être entre l'extérieur et l'intérieur, et notamment à travers ce qu'on appelle la chronologie des médias. On en reparlera dans un instant, mais d'abord, l'une des grandes inquiétudes tout de même porte sur le tournage de films et de séries qui sont à l'arrêt depuis mi-mars et qui ne devraient pas reprendre avant juin et peut-être même juillet. Simone Harary-Beaulieu, vous qui dirigez la société de production Effervescence, comment est-ce que vous avez vécu cette mise à l'arrêt ?
Alors, pour répondre très directement à votre question, qui est celle du tournage, incontestablement, il y a un délai de démarrage, même si aujourd'hui, nous enregistrons cette émission, nous recommençons à tourner un de nos jeux qui s'appelle « Tout le monde veut prendre sa place », qui est tous les jours à midi sur France 2, qui depuis quelques semaines est en rediffusion d'anciennes émissions, mais bien sûr sans public, puisqu'on ne peut pas prendre le risque de demander à des gens de venir, même à un mètre de distance, de prendre des transports en commun, alors que ce n'est vraiment pas une impérieuse nécessité et qu'il ne s'agit pas d'aller travailler. Et pour des candidats moins nombreux, on a fait un master de champion pour en avoir moins de flux de personnes présentes. Voilà, donc timidement, on recommence, on réouvre la boutique et donc on peut enregistrer à partir d'aujourd'hui. Dans les tournages de fiction, c'est plus délicat. Comment est-ce qu'on fait une scène amoureuse avec des masques? C'est très compliqué. Donc là, on n'est pas encore déconfiné. Mais bien sûr, on se réjouit de commencer à y travailler.
Ça veut dire qu'il n'y aura pas de nouveautés avant un certain temps à la télévision, Simone Harary-Beaulieu?
Non, ça veut dire que ce qui devait être tourné entre le 15 mars et en gros juin sera retardé. Et ça, c'est certain. Nous, on a eu plusieurs documentaires en cours de tournage. On reprend. En documentaire, c'est on a besoin de moins de personnes présentes dans un nombre de mètres carrés restreint. Mais par exemple, même pour les documentaires, en ce moment, on ne peut pas encore voyager, aller comme on veut aux États-Unis ou nous avions des tournages à faire.
Est-ce qu'il n'y aura pas un risque d'encombrement, du coup, à cause effectivement des tournages qui auront été retardés et reportés?
Oui, il y aura des conséquences. Il y a des difficultés d'organisation qui vont créer une sorte d'embouteillage pour, par exemple, les comédiens. Est-ce qu'ils doivent donner la priorité des tournages en cours ou démarrer les tournages qui devaient démarrer plutôt que d'éviter une espèce de jeu de cartes, vous voyez, dans lequel chacun, pour rattraper un retard, en met d'autres en retard. Donc, comment est-ce qu'on doit distribuer les cartes dans le planning, surtout que l'été est une période très propice à des tournages, les journées sont plus longues, il y a des endroits en ville qui sont moins pris et donc on peut plus facilement bloquer une rue, bloquer l'entrée d'un immeuble, garder un restaurant, des choses comme ça. Donc oui, il y a des soucis et ces soucis-là, on a vraiment besoin que les compagnies d'assurance veuillent bien, comme vous savez, il y a toujours marqué en tout petit dans les contrats exactement le sujet pour lequel vous auriez besoin de le faire jouer. Ben non, c'était marqué en tout petit, pas pour les grèves, pas pour les épidémies, pas pour les trucs, pas pour les machins. Donc là, la profession est encore en discussion avec les assurances et tout ça est en train d'essayer de se remettre en place. Mais c'est vrai que on n'y est pas encore. Hein.
Face aux pertes considérables qu'ils ont subies, les professionnels du secteur ont lancé un appel au secours. Le chef de l'État y a répondu, entre autres, par la création d'un fonds d'indemnisation. On l'écoute.
Sur les tournages, le ministre l'a dit, il y a tout un travail qui a commencé à être fait pour que les choses puissent reprendre. Alors c'est évidemment très compliqué à reprendre, ça dépend des cas. Cette distance sociale, toutes les règles, c'est énorme. Et puis les limites en nombre, j'en ai bien conscience, donc ce sera très dur de reprendre des tournages de manière concrète, sauf quelques exceptions, avant la fin mai. Après, quand on verra un peu plus, on pourra adapter en juin-juillet. Mais ce sera du cas par cas quasiment. Et donc, il faut qu'on puisse là aussi aider les artistes, les structures, les producteurs. Et donc, on va mettre en place un fonds d'indemnisation temporaire. Il y a un écosystème qui vit quand même du monde du cinéma tout au long de l'année. Et donc, il faut que les assureurs, les banques, les Sofica viennent avec nous pour nous aider et mettre en place ce fonds d'indemnisation temporaire qui pourra, au cas par cas, pour les séries, pour les tournages qui doivent être annulés ou reportés, à nous aider à indemniser.
Joël Farchi, l'objectif de ce fonds, c'est d'indemniser les professionnels, mais aussi de fournir une assurance pour les prochains tournages. C'est un enjeu clé.
Oui, bien sûr, mais je pense que Simone Ariel l'a parfaitement expliqué. Il y a vraiment des mesures, mais ça fait partie, disons, des mesures d'urgence qui pour répondre à la mise à l'arrêt. Mais ça ne résout pas des problèmes structurels qui étaient déjà là et en matière de négociation sur quel sera le financement de l'audiovisuel de demain.
Parce qu'il faut dire, comme le disait Simone Harary-Beaulieu, qu'en effet, les tournages devraient coûter beaucoup plus cher à cause des restrictions sanitaires notamment. Et c'est peut-être l'occasion, Joël Farchi, d'expliquer comment fonctionnent les Sofica, évoquées par Emmanuel Macron, ces sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle.
Oui, les Sofica, c'est simplement des sociétés qui permettent de financer l'audiovisuel en faisant bénéficier ceux qui participent à ces sociétés de réduction fiscale. Donc c'est un système qui existe depuis extrêmement longtemps, qui existe depuis 85, je crois, en France. Donc c'est pas une nouveauté. Disons, c'est une forme, entre guillemets, de niche fiscale spécifique pour orienter des investissements vers l'industrie audiovisuelle.
En aval de la création, la diffusion est également à l'arrêt. Les salles de cinéma pourraient rouvrir seulement cet été. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Culture, Franck Riester. Esther. Écoutez le témoignage de Geneviève Ducasse, elle est présidente de l'association qui gère le cinéma L'Eden Palace à Argenton-sur-Creuse, près de Châteauroux.
C'est une perte de recettes pendant 3 mois et demi de fermeture. On a 2 employés à mi-temps, mais qui vont être en chômage partiel. Est-ce que le chômage partiel va se maintenir jusque-là, je suppose, mais voilà. Puis on se demandait si les gens allaient revenir au début. Parce que quand même, d'abord ça va être l'été. Pour peu qu'il fasse beau, ils auront certainement envie d'autre chose que de s'enfermer dans une salle. Surtout avec toutes les précautions qu'il faudra prendre. En plus, je ne sais pas si les distributeurs vont sortir beaucoup de films à ce moment-là. Parce qu'ils savent bien que ça va être une saison un peu morte. Il y a aussi le problème de la salle où normalement on a à peu près 200 places et je ne sais pas à combien on va la réduire. Ça fait beaucoup d'interrogations et on espère que quand même les gens vont revenir.
Que vous inspire ce témoignage, Simone Harary-Beaulieu ? Les pertes pour les salles de cinéma sont considérables ?
Ah oui, vraiment, j'ai trouvé que cette personne le disait avec beaucoup d'émotion et on le comprend. C'est vrai que quand on nous met en garde d'un point de vue sanitaire, il y a toujours une très grande insistance sur le danger des lieux confinés. Et c'est vrai que la première réaction, c'est pas d'aller se mettre dans un lieu fermé. Ça, je comprends la difficulté, la peine et le pronostic inquiet de cette dame qui exploite des salles de cinéma, parce que ça, c'est effrayant, c'est vrai. Alors, est-ce que demain, le choix de la salle se fera en fonction des promesses d'aération, de pchit-pchit ? Bon, évidemment, tout va dépendre de l'avenir de l'épidémie. Personne ne sait s'il va y avoir une reprise de la vague actuelle, s'il y aura des vagues futures, avec quelle intensité, avec quel calendrier. Mais c'est vrai que tant qu'on a le sentiment que le risque existe, je comprends sa crainte. Hein. Alors est-ce qu'avec un masque à gaz, on pourra continuer d'être respiré autonome ? Est-ce que je veux dire ? Ça, bien sûr, c'est effrayant. Et je comprends aussi très bien sa crainte sur la distribution, parce que il faut que nos auditeurs sachent que le planning des semaines est fait 1 an à l'avance. Et on sait déjà que la 2e semaine de septembre, il y aura tel dessin animé, tel blockbuster américain, tel film d'auteur. Et donc, qui va essayer de se mettre dans tel interstice et de se dire, ah, moi, je sors plutôt juste avant la Toussaint ou juste début septembre ou encore fin août. Et donc, quand vous avez tous les films qui sont pas sortis dans les 8 ou 10 ou 12 semaines de mars, avril, mai et juin, probablement, ou en tout cas mars, avril, mai, comment va se faire l'embouteillage? C'est très, très, très dangereux pour un film d'être mis en salle, ça marche pas assez bien, Stung, une semaine plus tard, il est sorti des écrans. Donc, il va y avoir nécessairement un phénomène de rétention dans lequel les distributeurs vont se dire, mon film, j'attends pour le sortir, entre le public qui va pas être là et tous les films qui étaient programmés qui vont passer devant. Et donc, il y a une espèce de malaise et d'incertitude totale qui va induire des comportements, c'est vraiment comme des jeux, si vous voulez, d'études de cas, où on ne peut pas savoir ce que va faire le voisin, mettre, jouer ou se retirer de la table. Et c'est vrai que pour les lieux qui accueillent le public, comme les salles ou les théâtres, et la stratégie des distributeurs ou la tactique des distributeurs pour s'ajuster, mais en même temps, garder un film, c'est se priver de la remontée de la recette. Mais mettre le film et rater sa recette, c'est encore plus fatal. Donc c'est vraiment très très difficile.
Il y a plusieurs aspects soulevés par effectivement cette exploitante de cinéma d'Argenton-sur-Creuse. Le fait qu'il y a un certain nombre d'entreprises en lien avec le cinéma qui sont touchées, pas seulement la salle, et aussi le fait que certaines salles, Joël Farchi, risquent de ne pas passer l'épreuve des 3 à 4 mois de fermeture.
Alors ça, je suis bien incapable de vous dire quelles sont les salles qui s'en sortiront ou pas. Mais après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a en France quand même des grands groupes de cinéma. Alors le problème, ça va être pour les petites salles indépendantes. Et pour les petites salles indépendantes, on peut penser que les pouvoirs publics prendront le relais, soit parce que ces salles font un boulot formidable en termes d'aménagement du territoire, enfin de maillage territorial, soit en termes de programmation de type de cinéma. Après, il y a les autres salles, les salles qui appartiennent à des grands groupes. Et là, on peut espérer que de ce côté-là, ce sont des groupes suffisamment solides pour pouvoir résister à une tempête de ce type.
Simone Harary-Beaulieu.
Oui, sur le fait que ce qu'il y a eu de plus spectaculaire dans les annonces du président de la République et du ministre de la Communication, et c'est évidemment très important, il fallait commencer par là, c'était les intermittents et les personnes physiques, donc, dont l'activité est directement liée aux activités de création. Mais pour les personnes morales que sont nos entreprises, là il y a des situations d'une disparité totale, comme vient de le souligner justement Joël Farchi. Vous avez l'exploitant qui a une petite salle et qui amoureusement en fait un hobby plus qu'il ne peut en vivre parfois, et vous avez l'entreprise de taille moyenne, et vous avez le réseau dont on peut en effet espérer qu'il ait les épaules et les reins assez solides pour attendre, surtout avec le chômage partiel tel qu'il a été pris en charge et indemnisé. Mais les situations sont extrêmement disparates. Mais à cela s'ajoute un impact sur l'objet même que sont les films. Et un film qui sort trop vite, qui sort mal ou qui sort dans la mauvaise situation de concurrence ne pourra pas donner tout son potentiel, ni en termes de plaisir pour le public, qui au même moment peut pas le même soir voir 3 films, ni en termes de ressources pour sa propre chaîne de valeur.
La crise sanitaire semble avoir bouleversé la chronologie des médias, ce système qui impose un délai de 4 mois entre la sortie d'un film sur grand écran et son exploitation sur d'autres supports. Certains distributeurs ont eu la possibilité de zapper l'étape cinéma et de proposer directement leur film en VOD, Joël Farchi.
Bon, alors ça, d'abord, ça a été relativement marginal. Et cette question de la chronologie des médias, c'est pas le coronavirus qui l'a inventé. Simplement, effectivement, il y a eu des choix qui ont été faits par un certain nombre de distributeurs de se demander, est-ce que je me retrouve dans un embouteillage dans 6 mois, dans 8 mois, avec des salles qui vont être, quand elles rouvriront, extrêmement embouteillées, ou est-ce qu'au contraire, je fais le choix du virtuel? Mais c'est aussi vrai pour des festivals. On voit bien, par exemple, que sur le festival, pour les plus grands d'entre eux, comme pour les plus petit, le festival de Cannes n'a pas voulu, ou en tout cas, faire comme certains autres festivals l'ont annoncé, c'est-à-dire faire un festival virtuel, parce que pour eux, ça n'avait pas de sens, pour d'autres, ça avait un sens. Donc là aussi, ça dépend. Après, la chronologie des médias, je vous dis, elle pose un problème beaucoup plus structurel de quel sera le financement de l'audiovisuel de demain, et puis de cette fameuse directive européenne de 2018 qui s'appelle la directive SMA, et des contreparties que le financement va avoir. Mais sinon, cette chronologie des médias, elle n'a pas été anéantie par le coronavirus. Elle a posé conjoncturellement des problèmes spécifiques.
C'était effectivement une autorisation exceptionnelle du CNC, du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, mais c'est tout de même intéressant de voir, par exemple, que Pinocchio, le film de Matteo Garrone, qui devait sortir dans les salles le 18 mars, a finalement atterri directement sur la plateforme d'Amazon, Amazon Prime Video. Quel regard est-ce que vous portez sur cette décision prise par la société de distribution indépendante, le pacte, Simone Harary-Beaulieu?
Alors, oui, bien sûr, le coronavirus, c'est tout à fait exact, n'a pas bousculé la chronologie des médias. Mais il a révélé des choses que, quand même, tout le monde savait et qu'on voulait pas trop voir. C'est que la chronologie des médias, extrêmement rigide, protectrice et très bien pensée dans le monde d'hier, était mise en charpie. Et il y a quand même une accélération de quelque chose qui était en cours. Ce qui a déjà bousculé et montré l'inanité de maintien de règles inchangées, c'est bien sûr l'attitude de Netflix principalement, enfin des grandes plateformes de SVOD, qui d'emblée ont dit, attendez, Nous, quand on paye un film, on n'attend pas 2 ans. Donc, ou bien on se passe de la salle, ou on fait une toute petite sortie de 15 jours et on le met en direct. La France a, probablement avec sagesse, mais probablement aussi avec court-termisme, pas voulu voir le problème en disant « en attendant, on verra bien », eh bien là, c'est une accélération du fait qu'on ne reviendra pas au système antérieur.
Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la salle ne suffit plus à rentabiliser un film, Simone Harary-Beaulieu?
Ça dit plusieurs choses. Ça suggère d'abord que, avec la même règle, c'est-à-dire une dérogation est possible pour une raison exceptionnelle, tout le monde n'a pas la même attitude. Certains disent, bah, tant pis, moi je me passe de la salle et j'y vais direct. Et d'autres disent, bah, tant pis, on attendra un certain nombre de mois. Et donc, il y a peut-être aussi, dans notre système de jardin à la française, dans lequel les symétries sont parfaitement établies et les règles d'ordonnancement réglées comme un balai à Versailles, et ben, malheureusement, ça marche plus comme ça. Donc, est-ce que les exceptions, c'est le plus anxieux, celui qui a le plus besoin d'argent qui cède? Est-ce que les exceptions, c'est celui qui, selon l'opinion et l'idée que chacun se fait de son propre intérêt? J'en sais rien. Mais on voit bien que c'est pas parce que c'est permis que tout le monde va le faire. Et ça dérange un petit peu notre mentalité. Donc là, il y a un effet d'accélérateur sur le fait que notre réglementation, on peut la chérir, mais elle ne durera pas. Et on peut pas à la fois dire à Netflix, ben, attendez, votre film qui sort pas en salle, d'abord c'est pas un film, et donc il va pas dans les festivals, etc., etc. On peut plus faire ça. On est obligé d'avoir des règles soit flexibles, soit plusieurs régimes avec des avantages ou des inconvénients qui peuvent être différenciés les uns par rapport aux autres. Mais on voit bien que la salle de cinéma, rien que la salle de cinéma, puis la télé à péage et la VOD, puis les films en télévision linéaire, ça ne va pas continuer comme ça. Il y avait déjà eu pas mal d'aménagements, de commissions de réflexion des uns et des autres, de concertations au sein de la profession. Le critère qui était le plus facile et qui avait déjà été mis en place pour Canal, en gros, ou à la demande de Canal, enfin c'était pas une faveur faite à Canal, mais c'était de dire quand un film a fini sa vie en salle, parce que voilà, il n'y a plus qu'une salle qui l'a à l'affiche, peut-être après juste 1 mois, et pas 6 mois comme son producteur l'aurait espéré, ben pourquoi pas y aller tout de suite? Donc ça, c'était un critère objectif, facile, mais qui était presque un peu un aveu d'échec. Mais même si vous aviez la simultanéité que revendique Netflix de pouvoir mettre au même moment certains films disponibles à la télé en péage ou disponibles en salle de cinéma, tout le monde ne choisirait pas la même chose. Donc il y a quand même aussi des diversités d'adaptations qui ne pourront plus être, je pense, totalement absentes de la règle qui succédera à la chronologie actuelle. Ce que j'espère, c'est qu'on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain en disant avant c'était totalement corseté et maintenant c'est chacun fait comme il veut et comme il peut.
Aux États-Unis, Universal a annoncé qu'il poursuivrait l'exploitation de ses productions en vidéo et à la demande après la réouverture des salles de cinéma. En 3 semaines d'exploitation numérique, en effet, la suite de Troll a en effet rapporté plus d'argent aux studios hollywoodiens que le premier volet ne l'a fait durant 5 mois en salle. Joël Farchi, la bataille entre distributeurs et exploitants est lancée du côté des États-Unis.
Pour revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que la salle ne suffit plus? Mais ça fait très longtemps que la salle ne suffit plus économiquement. Et ça fait très longtemps que la salle n'est pas l'endroit où un film ni se finance, ni s'amortit. La salle, elle est extrêmement importante pour d'autres raisons. Elle est extrêmement importante parce que c'est un lieu symbolique de valorisation des films. C'est là que les films trouvent un écho qu'ils n'ont absolument pas sur d'autres supports. Et puis c'est là qu'il y a un lieu de socialisation du public. Mais c'est pas parce que économiquement, la salle fait vivre l'intégralité des films qui sortent aujourd'hui, loin de là.
Simone Harary-Beaulieu.
On peut aussi penser que c'est un moment de valorisation. C'est que la sortie salle, le mercredi, à 9h pour les initiés, à 13h la première grande séance, et donc ça rythme la promotion, la critique, pour ceux qui vivent en ville, l'affichage dans le métro, sur les culs de bus, c'est vraiment impressionnant. Hein, on sait quel film sort, parce que la semaine d'avant, il y en a partout. Et donc ce rythme, ce tempo, ce focus est une chose majeure. Donc c'est pas la salle, mais c'est à l'occasion de la salle. Et donc ça peut se recréer quand Netflix a sorti le Scorsese fait pour Netflix, donc il n'avait pas lieu d'aller en salle. Ils ont essayé, ou ils ont même réussi.
The Irishman.
À orchestrer la mise en ligne de The Irishman, je ne sais pas si l'on fait par pays d'ailleurs, ou si c'était une campagne mondiale, ou des parties du monde, j'en sais rien, mais on voit bien qu'il y a une scansion du temps et de l'attention qui se gère. Donc ça, ça reste essentiel, c'est vital, mais c'est pas nécessairement inscrit dans un lieu.
Donc en salle ou sur le numérique, ce qui compte, c'est de créer l'événement.
C'est très important. Et jusqu'ici, dans le monde d'avant-hier, en gros, on pouvait considérer que l'exploitation, les films en exclusivité ont payé sa place, genre 10 euros la place. Canal+, on voit bien que si on regarde, payait à peu près 10 euros par semaine. Hein, quand on louait une cassette ou quand on l'achetait, c'était à peu près 5 euros. Et puis après, c'était gratuit. Vous voyez, donc il y avait une décroissance du prix payé par le consommateur. Alors là, ce qu'il y a de tout à fait nouveau dans l'exemple que vous venez de citer, Tiffaine, c'est comment Universal a réussi une monétisation qui, là encore, montre bien que la période... Je reviens sur le terme d'exclusivité, la période où il y a le plus fort désir, ça vient de sortir, on veut être parmi les premiers, donc à l'avoir vu, et donc il y a une espèce de premium. Mais de plus en plus, il y a des formules à la télévision pour des épisodes de séries dans lesquels vous pouvez l'avoir en pay-per-view juste avant que tout le monde le voit. Donc il y a d'autres façons d'organiser des formes de gestion de l'attention et de la pub et de la critique, et de gestion de flux décroissants. Alors, ceci ne remplace pas ni la socialisation et ce qu'on partage à plusieurs, quand on pourra, j'espère bientôt le faire, ni le plaisir de l'écran géant, du son surround, de ne pas être interrompu par le téléphone, par le frigo, par les enfants, par le chat ou par quoi que ce soit, et de l'immersion que permet la salle. Parce que la salle, c'est quand même une sortie, c'est quand même tout oublié, c'est quand même la magie du cinéma, au-delà du film lui-même.
C'est vrai qu'il faut souligner le fait que c'est un pari assez audacieux de ne pas passer par la salle et d'aller directement sur le numérique, un pari audacieux sur le plan économique. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, Joël Farchi, c'est que la plupart des distributeurs ont préféré reporter parfois d'un an la sortie de leurs films, en particulier les grosses productions.
Oui, absolument, mais ça revient à ce qu'on était en train de dire à l'instant, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'une règle existe que tout le monde la mobilise de la même façon et que pour des tas de raisons... Que ce soit d'ailleurs des raisons économiques, mais aussi des raisons de désir, parce que vous pouvez avoir pour des films qui seraient dans une catégorie économique un peu identique et dans des situations un peu identiques, un désir du réalisateur, du distributeur qui n'est pas du tout le même. Certains vont valoriser plus particulièrement la salle, d'autres pas. Donc il y a vraiment des cas, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est d'introduire de la souplesse de façon à ce que chacun puisse choisir. De la souplesse, ça ne veut pas dire le Far West, mais de la souplesse de façon à ce que chacun puisse choisir en fonction de sa situation spécifique.
Il y a un arbitrage économique qui est intéressant, en effet, parce que d'un côté, ces reports ont un coût. Je pense en particulier au futur James Bond, Mourir peut attendre, No Time to Die, qui a été reporté au mois de novembre. Ce report coûterait 30 millions de dollars, notamment en frais marketing. Et en même temps, si le film avait été maintenu au mois d'avril, comme ça devait être le cas, ça aurait pu être plus coûteux encore, évidemment, à cause des fermetures de salles à la fois en Asie, en Europe et aux États-Unis. Joël Farchi.
Oui, oui, absolument. Notamment pour les films qui ont les plus gros budgets, où effectivement, on disait tout à l'heure, les choses se font un an, voire plus à l'avance, et décaler devient quelque chose d'extrêmement lourd. Alors après, maintenant, peut-être qu'on s'est beaucoup polarisé jusque depuis le début de l'émission sur un bout de l'industrie audiovisuelle qui est le film de cinéma classique, enfin, avec tout son potentiel en salle. Et puis, il y a quand même de l'audiovisuel, on parlait des pratiques à domicile, de ce qui se passe à la télé, sur les services en ligne, il y a quand même tout un autre volet qui aujourd'hui est essentiel, qui est quand même tout ce qui est des productions audiovisuelles non cinéma, c'est-à-dire notamment les séries. Et c'est quand même, en particulier pour les jeunes, quelque chose qui est très largement plébiscité aujourd'hui. Donc je pense qu'on ne peut pas penser l'économie de l'audiovisuel aujourd'hui sans parler de l'ensemble de ces productions très diversifiées.
On a parlé de la fermeture des cinémas et de l'interruption de la production et de leurs conséquences. Il faut maintenant parler du financement global des œuvres et en effet repenser peut-être ce financement global. On en parle dans un instant, mais d'abord je vous propose d'écouter le thème officiel du prochain James Bond, No Time to Die. I should have known I'd leave alone just
to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were
No Time to Die, la chanson officielle du prochain James Bond, interprétée par la chanteuse américaine Billie Eilish. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, et nous sommes toujours en compagnie de la productrice de télévision Simone Harary-Beaulieu et de l'économiste Joël Farchi pour parler de l'avenir de la création audiovisuelle. Alors, l'État doit-il jouer les régulateurs? Que peut le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée? Écoutez son ancien président, Michel Fauré-Cormeret, c'était le 13 juillet 1961 sur la RTF.
Le Centre National de la Cinématographie est un établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière par l'intermédiaire duquel l'État s'efforce d'animer l'activité cinématographique et de la contrôler. Cet organisme constitue aujourd'hui l'un des services du ministre d'État chargé des affaires culturelles, M. André Malraux. L'article 2 de la loi du 25 octobre 1946 qui a créé le centre énumère ses attributions. Alimenté par un double système de taxes, d'une part et pour l'essentiel, taxes additionnelles au prix des places, d'autre part, taxes de sortie des films, le régime de soutien financier est destiné essentiellement à favoriser la production. En second lieu, ce régime comprend un double système de prêts. Prêts par l'intermédiaire du Fonds de développement économique et social dont les intérêts sont très modérés. Surtout, avances et recettes destinées à soutenir la qualité des œuvres cinématographiques.
Le CNC a été créé pour soutenir la création et il joue aujourd'hui un rôle central dans le financement des productions, Simone Harary-Beaulieu.
Oui, bien sûr, c'est très émouvant d'entendre cette voix qui grésille comme les voix de l'immédiate après-guerre et de penser qu'on est quand même... Enfin, en tout cas, vous avez dit que c'était 1961. En effet, si Malraux est à ce moment-là ministre de la Culture. Bon, je crois que bien avant le décret de 46, on était quand même mis en place ce système de taxes assez génial. Et pour une fois, l'expression « que le monde entier nous envie » est assez juste, puisque cette taxe est prélevée sur tous les films. Chaque fois qu'on achète un ticket pour acheter une place de cinéma, partiellement aussi sur les films américains, bien sûr pas seulement, mais aussi, et son produit est redistribué sur la création française, et française ou européenne, mais elle seulement. Et donc, ça donne un volant d'air, en quelque sorte, supplémentaire. Et il va de soi que si la partie salle venait à diminuer en pourcentage du financement des films, c'est aussi le produit de cette taxe qui viendrait à diminuer, à s'étioler un peu. Et donc, ça ferait une source de plus de répercussions négatives sur le financement de la production. Et il faut avoir bien conscience que, comme toujours dans le domaine de la culture, c'est l'aval qui finance l'amont. Et donc là, c'est les gens qui regardent des films qui contribuent, sans le savoir, à financer les films suivants qui se feront. Donc le CNC, c'est d'une part une machine à recycler cet argent, ce qui est très important. D'autre part, une machine à demander une contribution également aux chaînes de télévision, maintenant un peu aux fournisseurs d'accès Internet, puisque c'est grâce à leurs efforts technologiques, on va dire, de mise à disposition de bandes passantes que les gens peuvent télécharger même supposons que ce soit que légalement, on sait bien que ça n'est pas que légalement, des contenus audiovisuels pour les regarder gratuitement. Et par conséquent, il faut là encore que la consommation finance la production future. Et ce qu'il y a de délicat en ce moment, c'est que finalement, un spectateur ne rapporte pas la même chose selon qu'il est allé voir le film en salle, qu'il l'a loué distinctement, individuellement, qu'il s'est abonné à un service de VOD, à une chaîne à péage.
Mais justement, il y a plusieurs mesures qui sont sur la table, et notamment le fait que les plateformes et les chaînes de télévision devraient être taxées au même taux sur leur chiffre d'affaires publicitaire. C'est ce qui est prévu par la réforme de l'audiovisuel qui a été repoussée avec la pandémie. Pour vous, c'est une mesure qui va dans le bon sens ?
Ah, c'est pas seulement dans le bon sens, c'est juste crucial, vital, et sinon, notre pays n'aura plus d'audiovisuel. Vous venez là d'énumérer plusieurs sources de financement. La publicité, ben, on voit bien que ça fait quand même partie des dépenses qui sont faciles à couper. Apparemment, pour chaque annonceur, sans trop de casse sociale, c'est plus facile de couper de la pub que de se séparer d'une dizaine de collaborateurs. Donc, premier effet à la baisse. Deuxième effet à la baisse extrêmement important et qui, là encore, n'est pas causé par ni le confinement, ni le virus, et était déjà en place, c'est la façon dont les sites Internet, et qui ne sont pas forcément d'ailleurs, et même généralement pas du tout les mêmes que les plateformes, eux ont une supériorité extraordinaire pour recevoir la publicité, ce qui contribue à dépouiller, au départ à freiner la progression de la pub à la télé, et petit à petit, la télé ou le cinéma bien sûr, et petit à petit à la dépouiller. Un mot là-dessus, il est évident qu'on peut faire de la publicité pour une nouvelle grosse voiture, qu'elle soit française ou BMW, dans des magazines hebdomadaires, on peut la faire à la télévision, mais c'est tellement plus fort de l'afficher uniquement aux gens qui ont fait une recherche et dont on sait qu'ils sont en train d'envisager d'acheter une voiture.
Joël Farchi.
Moi, j'ai trouvé ça aussi très émouvant, le témoignage de l'ancien président du CNC. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est que le CNC qui a été créé en 46 a été créé dans une logique industrielle au départ, pas du tout une logique culturelle. En 61, on est déjà dans le début de la logique culturelle, mais c'était pas du tout l'origine au départ. L'origine, c'était de financer dans une perspective de reconstruction de l'après-guerre. Donc, on était vraiment dans une logique quantitativiste. Il faut produire français, comme on produit des voitures, il faut produire du cinéma français. Et puis, la deuxième chose que ça m'inspire, c'est par rapport à votre question sur le CNC. C'est vrai que à l'époque, il y a une taxe qui a été mise en place, qui était une nouveauté incroyable, qui était une taxe sur les billets de cinéma. Mais il faut bien savoir qu'aujourd'hui, le Centre national du cinéma, il a un avantage extraordinaire par rapport à d'autres organismes, notamment le Conseil national de la musique, par exemple, qui est beaucoup plus récent. C'est que du fait de cette histoire, les recettes se sont diversifiées. C'est-à-dire qu'on a parlé de la taxe sur les billets, sur les salles, mais l'essentiel des recettes du CNC aujourd'hui, c'est, en valeur absolue, c'est la taxe sur les fournisseurs d'accès à Internet, et puis c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, la taxe qui est en train d'augmenter sur la vidéo en ligne. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des services de vidéo en ligne dont le chiffre d'affaires augmente, eh bien, ça fait mécaniquement aussi augmenter les ressources du CNC. Donc, ce qui baisse, il y a des choses qui baissent d'un côté, mais il y a aussi des ressources qui augmentent de l'autre côté. Et c'est ça l'avantage de l'histoire très ancienne du Centre national du cinéma, c'est que il a eu le temps de s'adapter et de diversifier ses ressources, et ce qui fait qu'il a aujourd'hui un budget extrêmement important.
Vous l'avez évoqué, Joël Farchi, ce que beaucoup de professionnels du secteur attendent aujourd'hui, c'est une application en France de la directive européenne SMA, Service de médias audiovisuels, qui a été plusieurs fois repoussée. Aurore Berger, députée LREM des Yvelines et rapporteuse de la réforme de l'audiovisuel en cours, l'évoquait au mois de janvier.
Je crois qu'il y a un consensus très puissant au sein de l'Assemblée nationale qui est de dire qu'on a des nouveaux usages qui se sont développés évidemment, que les Français ont adopté des nouveaux modes de fonctionnement, qu'ils ont adopté des nouvelles plateformes, mais que ces plateformes, elles doivent aussi adopter nos règles, ouais. Nos règles du jeu, parce que l'enjeu, c'est qu'il y ait plus de diversité de création, d'accès aux œuvres, tout simplement, que ce soit des œuvres cinématographiques, audiovisuelles, dans leur diversité. Ça veut dire à la fois qu'il y ait plus d'obligations sur les nouveaux entrants, notamment des obligations de financement des œuvres et le financement selon nos règles, c'est-à-dire qu'on ait bien le recours à de la production indépendante et pas uniquement tout en part dépendante, parce que on sait que c'est aussi ça un peu le nerf de la guerre, qu'on ait un producteur délégué, parce qu'on veut pas que nos producteurs ne soient que des prestataires de services, des sous-traitants de plateformes. Et donc ça, c'est un point important. Mais on doit aussi se poser la question de savoir quand les œuvres sont disponibles. il faut à un moment qu'on arrive à une forme de neutralité, c'est-à-dire de dire finalement, plus vous financez une œuvre avec des obligations de diversité, etc., plus tôt vous pouvez la diffuser.
L'objectif de cette directive européenne SMA et de sa transposition dans le droit français, c'est de faire participer donc davantage les plateformes au financement de la création française, Simone Harary-Beaulieu.
Oui, c'est tout à fait important et Aurore Berger le dit très bien. Alors, heureusement, la rumeur veut que l'introduction de la directive SMA dans le droit français, malgré le retard parlementaire, qui est un peu l'équivalent du retard de la distribution des films, pourrait se faire dans les délais prévus, c'est-à-dire serait 10 juin de l'autre volet de la loi audiovisuelle qui concernait l'audiovisuel public, pour pouvoir être en effet adopté dès cet été ou au plus tard cet automne, pour obtenir que, en effet, tout le monde se vive avec des contraintes un peu voisines de contributions fiscales, sociales, et aussi de contribution au financement de la production originale française et européenne. C'est vraiment quelque chose de tout à fait important.
C'est une mesure qui était très attendue, qui a été maintes fois repoussée.
Ah oui, c'est une mesure qui était réclamée à cor et à cri. Je suis plutôt partie des gens qui pensent que on a un peu trop tardé dans une époque où des dirigeants avaient peur. Vous savez, c'est une chose qui s'est un petit peu passée au moment de la lutte contre le piratage et la création d'Adopi. Il y a des parlementaires qui disaient, moi, je peux pas être dans le camp opposé de celui de mes enfants. Non. Et donc, tout d'un coup, les parlementaires se font une certaine idée de ce qui est le vent nouveau, ne veulent pas passer pour des vieux ringards, sans se rendre compte que ce n'est pas être ringard que d'imposer une règle du jeu à des entrants qui viennent d'autres cultures et d'autres pays. On a un système français qui est relativement ambitieux, et ce n'est pas parce que c'est pas le système américain qu'il faut considérer que tout notre système doit être jeté par-dessus bord. Donc l'idée que Netflix c'est formidable, et que pour autant Netflix et Amazon doivent se conformer à une certaine idée des obligations françaises, et que celles-ci sont pas pour autant désuètes parce qu'elles sont plus chères que celles qui ont cours en Californie, et qu'il y a plein de raisons pour cela, je trouve qu'on a mis un petit peu longtemps à s'y mettre. Mais maintenant que tout le monde est d'accord que la France a joué un rôle majeur pour que cette directive SMA soit adoptée au niveau de l'Europe, et ça c'est vraiment grâce à la ministre française de la Culture, que ça a pu être obtenu un peu contre toute attente d'ailleurs. Elle me le racontait encore récemment à quel point ses collaborateurs lui avaient dit « c'est même pas la peine, vous n'y arriverez pas ». Elle a réussi, et donc il est urgent qu'elle soit évidemment introduite dans le droit français. Alors, encore une fois, Netflix et Amazon font déjà beaucoup de choses, hein. Il ne s'agit pas de dire qu'ils ne font rien. Mais comme le soulignait Mme Farcy, il y a plusieurs choses qui sont quantitativement, et comme le disait Aurore Berger, le montant qu'elles doivent investir, sur quelle base? Est-ce qu'on le compare aux abonnements français, à la plateforme mondiale? Quel taux on retient?
Justement, sur le taux, les plateformes pourraient être obligées d'investir au moins 25% de leur chiffre d'affaires contre 16% pour la télévision. Qu'est-ce que vous pensez de ces différents ratios, Joël Farchi?
Oui, alors effectivement, sur le chiffre d'affaires, la directive, elle dit bien que c'est sur le chiffre d'affaires du pays cible. Donc, c'est évidemment quand un service sera en France, ça sera sur le chiffre d'affaires qu'il a réalisé en France et pas sur son chiffre d'affaires mondial. Alors ensuite, il y a une vraie question. C'est-à-dire que la directive, en fait, ce qu'elle a fait, c'est quelque chose d'un peu technique. C'est-à-dire qu'elle a dit, ça va être en matière d'obligation de financement, ça va être non plus la règle qui s'appliquait avant, c'est-à-dire le pays du siège social de l'entreprise qui va décider les règles, ça va être le pays cible, le pays de destination. De manière très concrète, ça veut dire si je suis Amazon et que mon siège européen est au Luxembourg, mais que je propose mes services aux spectateurs en France, eh bien ce sont les pouvoirs publics français qui vont me dire dans quelles conditions l'entreprise va avoir des obligations de financement à la production, à la création européenne en France. Alors, évidemment, c'est ça que la loi française était en train de transposer avant la crise sanitaire. Et la grande différence, c'est que pour les services à la demande dont on est en train de parler maintenant, quelle que soit la nationalité des entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères, comme Netflix, comme Amazon, comme Disney, elles devront effectivement investir un pourcentage de leur chiffre d'affaires au financement de la production non pas française, mais européenne. Alors, ensuite, il y aura un sous-quota pour la production d'œuvres francophones, mais pour l'instant, moi, j'ai entendu aucun chiffre sur ce sous-quota. Alors, sur le quota, Au départ, ce qui avait été annoncé il y a quelques mois, c'était un taux de 16%. Pourquoi 16%? Parce que ça correspondait en gros à un alignement sur les chaînes historiques et les obligations qui existent depuis très longtemps pour les chaînes de télévision historiques.
Et alors, comment on est passé de 16 à 25%?
Alors ça, vous le demanderez au cabinet du ministre, je ne sais pas. Mais ce chiffre de 25%, en tout cas, qui a été annoncé, hein, puisque pour l'instant, rien n'est gravé dans le marbre, étant donné que la loi n'a pas été votée et que justement, Emmanuel Macron a dit dans ses annonces, non pas, il n'a pas annoncé des choses nouvelle dans ce domaine-là. Il a juste annoncé qu'il fallait que ça aille vite maintenant, et quitte à le faire par le biais d'ordonnances, tout simplement parce qu'il faut que la directive soit transposée avant la fin de l'année. Donc de toute façon, c'est juridiquement quelque chose d'urgent, indépendamment de l'aspect politique. Et alors, comment on est passé de 16 à 25, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ce 25, c'est le chiffre le plus élevé de tout ce qu'ont dit les différents pays européens. Alors après, moi, je ne me polariserai pas trop sur ce taux. La question, moi, que je me pose, c'est quelle contrepartie. C'est ça que je trouve extrêmement intéressant. C'est-à-dire que plus vous demandez à des opérateurs de financer à hauteur importante, plus ensuite vous allez avoir des contreparties. Je prendrai trois exemples extrêmement précis sur ces contreparties. La chronologie des médias, vous en avez parlé tout à l'heure. Lorsque, pendant très longtemps, le pacte social qui était dans l'audiovisuel français, c'était que Canal+ contribue extrêmement massivement au financement du cinéma. C'était ce qu'on appelait le grand argentier du cinéma. En échange de quoi, il avait un accès rapide aux films qui étaient sortis dans les salles. Et Roch-Olivier Maistre a dit à plusieurs reprises, le président du CSA, il a dit clairement à plusieurs reprises, ça n'est pas possible de demander à de nouveaux acteurs de financer massivement et plus, c'est pas qu'on les aligne sur les opérateurs historiques, c'est qu'on leur demande de financer plus. Si on leur demande de financer plus, il faut des échanges. Donc la chronologie des médias, il dit, on peut pas leur demander beaucoup et ne pas modifier la chronologie des médias. Deuxième exemple, la TVA. La TVA, elle est à 10% pour Canal, elle est à 20% pour les plateformes d'abonnement, de vidéos par abonnement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le risque politique de baisser la TVA pour des plateformes américaines ou on va augmenter la TVA de Canal qui n'en a vraiment pas besoin. Troisième et dernier exemple, plus vous mettez des obligations de financement fortes, plus les opérateurs en question qui vont préfinancer les œuvres vont demander des contreparties en termes d'exclusivité et en termes de durée des droits. Et plus vous avez des durées de droits fortes, plus vous risquez d'assécher les seconds marchés, notamment les marchés de la télévision linéaire classique. Donc vous voyez que la question de ce taux de financement, c'est pas une question juste technique et c'est pas une question juste de il faut demander de plus en plus d'argent. La question est à qui vous demandez de l'argent, en contrepartie de quoi. Et là, il y a à mon sens vraiment deux lignes qui se cherchent en filigrane. Il y a une ligne que j'appellerais une ligne productiviste, qui est une ligne de financement massif pour conserver une offre abondante. Alors ceux qui défendent cette ligne vont vous dire que c'est pour avoir une offre diversifiée. Ceux qui la combattent vont vous dire que c'est pour avoir une offre pléthorique. Et ça implique des contreparties en termes de durée des droits, d'exclusivité, de chronologie, etc. Et puis vous avez une autre ligne qui est une ligne protectionniste qui suppose de garder à distance un certain nombre d'acteurs avec lesquels on va être plus exigeant sur certains points et en contrepartie on va renoncer à trop exiger sur d'autres points. Mais en gros, si je résume, on peut pas toujours, enfin, en tout cas, c'est assez difficile de mordre la main de quelqu'un qui vous nourrit tout en lui demandant de vous servir un peu plus de lentilles. En général, soit on arrête de mordre, soit on arrête de lui demander à manger. Mais je ne crois pas du tout à la thèse qu'on va demander beaucoup sans devoir céder sur des contreparties. Donc, il y a vraiment une question de négociation et de qu'est-ce qu'on veut, dans quelles conditions.
Nous avons parlé des défis qui attendent le cinéma et la télévision dans ce fameux monde d'après. Parlons maintenant d'art contemporain. Le 6 mai, Emmanuel Macron proposait dans son plan pour la culture un grand programme de commande publique dirigé vers les spectacles vivants, la littérature, les arts plastiques, orienter la commande publique vers les bons artistes, entre guillemets. C'est un des cœurs de métier des FRAC, les 23 fonds régionaux d'art contemporain créés dans les années 80. Notre chroniqueur Xavier Martinet, métamorphosé en reporter de l'Écho, a joint Claire Jacquet, directrice du FRAC Nouvelle-Aquitaine. La crise sanitaire l'a obligée à reporter ses expositions, mais elle continue à approfondir son programme de commandes. On l'écoute.
On a effectivement dû réfléchir budgétairement à certaines conséquences. Alors, en dédommageant certains prestataires, notamment des artistes qui étaient sur le point de finaliser des projets, et puis en reportant d'autres projets quand c'était possible. On a essayé de prendre en compte ce service. Vous savez, on paye au service fait normalement pour les organisations parapubliques comme nous. Mais là, on s'est adapté dans la formule au mieux pour tout le monde.
Et pour la sortie de crise, les grandes lignes, s'il y a un éventuel déconfinement, puisque la Nouvelle-Aquitaine est en zone verte et qu'il y a quand même une circulaire de déconfinement qui autorisait les petits musées ou les lieux à rayonnement local à rouvrir, est-ce que pour vous, il y aurait une possibilité de rouvrir, même en baissant la jauge, comme l'ont dit certains?
Alors, on attend en effet des directives de la préfecture de région pour savoir dans quelle catégorie nous sommes, si nous sommes un petit ou un moyen musée, certainement pas un gros musée à mon sens, puisqu'on ne peut pas rivaliser avec des structures telles que le Louvre ou le Quai Branly. Et en plus, on a un nouveau bâtiment qui nous permet d'accueillir le public en toute sécurité, c'est-à-dire que nous avons des espaces d'exposition suffisamment amples pour que les gens puissent circuler sans s'entasser, des entrées et des sorties distinctes. Donc voilà, nous sommes toujours un petit peu en attente de la date de notre réouverture. J'espère fin juin, début juillet.
Alors ça, c'est pour le public. Et puis, autre chose intéressante concernant la politique, c'est la décision que vous avez prise pendant le confinement de lancer un appel à projet le 14 mars pour une vingtaine de projets, 25 au total. Et vous disiez, ce sera une aide substantielle et un moyen de donner la parole aux artistes sans que ce soit une commande fléchée sur le confinement et le coronavirus. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu faire ou prouver en quelque sorte?
Ce qu'on a essayé de faire, c'est de réagir au plus vite. Hein. Donc, à la lecture d'un texte de Bruno Latour, hein, qui réagissait de façon extrêmement, je trouve, intelligente en nous incitant à inventer de nouveaux gestes barrières contre les réflexes d'avant la crise. Je me suis dit qu'un appel à projet en direction des artistes pour leur donner la parole précisément au moment où ils étaient quand même en grande difficulté et pour pouvoir les aider à traverser cette période tant financièrement que moralement, je trouvais que on était exactement à l'endroit où nous devions être en étant toujours avec eux et en travaillant pour eux. Voilà, donc c'est 25 projets qui ont été retenus au final, 5 projets de plus qu'initialement, parce qu'on a été débordés. Ça a été un raz-de-marée de propositions et de projets aussi passionnants que bouleversants, souvent. On n'a pas appelé ça commande artistique précisément, ça a été un appel à projet et on a essayé aussi de rendre les choses le plus simple possible pour eux. Bon, chacun pouvait profiter de 1000 euros de frais de production et 1000 euros d'honoraires, donc ensuite à eux de gérer un petit peu cette enveloppe-là comme ils l'entendaient, mais en tout cas sans avoir de notre part une pression pour que le projet soit terminé vite, à temps, et tout en restant propriétaire de leurs œuvres, ce qui était très important aussi pour nous.
Et vous parliez de ne pas faire quelque chose qui ressemble à une grande commande. Précisément, le président de la République, lui, dans son plan de relance culturelle, a prévu, sans qu'on en sache plus, ce qu'il a appelé un grand programme de commande publique. Comment est-ce que vous le percevez? Est-ce que les FRAC pourraient jouer un rôle là-dedans? Est-ce que c'est leur rôle?
Alors, les FRAC gèrent des collections d'art contemporain, qui sont des collections publiques. Donc, on achète des œuvres tous les ans. Et par le biais de ces acquisitions, on soutient évidemment tout un écosystème de l'art, donc les artistes bien sûr, mais les galeries aussi. La commande publique est plutôt gérée directement par le ministère de la Culture. Et bien sûr, souvent les FRAC participent à des jurys pour sélectionner ces artistes. Mais je trouve que l'idée de commande publique lancée par le président Macron est une très bonne chose. Notre appel à projet vient en complément de cette mesure-là qui peut être très ambitieuse si effectivement les choses peuvent se concrétiser. On a beaucoup parlé du New Deal et de Roosevelt pendant cette période et de sa manière qu'il a eu d'intégrer un volet culturel à son programme en finançant énormément d'écrivains, énormément d'artistes qui sont devenus des artistes absolument importants, hein, que ce soit Roscoe ou Jackson Pollock ou encore Walker Evans. Donc voilà, c'est à nous de transformer cet épisode un petit peu dramatique en une forme de nouvelle construction de société. Et je pense que là, les FRAC ont un rôle de responsabilité sociétale évident en faisant le lien entre artistes, créateurs et puis public et territoire.
Claire Jacquet, directrice du FRAC Nouvelle-Aquitaine, au micro de Xavier Martinet. Une réaction, Simone Harary-Beaulieu, à cette interview qu'on vient d'entendre, peut-être sur le rôle de l'État et des collectivités territoriales dans le soutien à la création?
Je voudrais surtout dire en effet que le soutien à la création est quelque chose d'important, même pour l'audiovisuel, si je peux revenir dans mon propre terrain de jeu, et que les modalités sont nécessairement différentes. Et encore une fois, quand les gens, comme cette responsable, se posent la question, essayent de mettre en place des mécanismes, et c'est tout à fait important. Donc la commande publique est quelque chose qui peut exister pour l'art plastique. On n'a pas du tout parlé encore du spectacle vivant. Là aussi, que va-t-il se passer alors que la socialisation qui va là encore avec la salle et avec les publics qui se réunissent ne paraît pas possible et en tout cas pas désirable, parce que même si aujourd'hui tous les théâtres étaient ouverts, ils seraient probablement pas remplis, parce que ou en tout cas il y a une partie du public qui aurait tellement peur d'y aller que ce ne serait pas aussi simple, hein. Donc il faut évidemment pouvoir remplacer, suppléer, faire des choses à la fois souples, transitoires mais immédiates pour remettre dans le circuit de quoi stimuler la création des œuvres futures. Alors les œuvres futures sont pas forcément les œuvres d'hier, ça peut être cependant les artistes d'hier ou de nouveaux artistes. Et de ce point de vue, c'est vrai que le confinement et le télétravail, ça a parfois stimulé même, on peut presque le dire positivement, le développement, le travail d'écriture, qui, à l'abri de la pression du quotidien, a permis à des scripts, sans doute aussi à des livres, peut-être à des spectacles, de s'écrire. Et donc, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'ils puissent éclore d'une façon ou d'une autre. L'ensemble de la création, je crois, a plus que jamais besoin d'être aujourd'hui soutenu, même si le public et les places qu'il achète ne sont pas encore au rendez-vous.
Je vous laisse le mot de la fin. Sur cette stratégie d'ensemble qui, pour un certain nombre de professionnels de l'audiovisuel, manque aujourd'hui, ils déplorent l'absence d'une pensée politique forte. C'est aussi votre avis?
Je crois que, en disant qu'il fallait se réinventer, le président de la République a quand même donner un mot d'ordre qui est de ne pas être prisonnier des dogmes anciens et que par conséquent le service public de la télévision est quelque chose de tout à fait important et a été central dans l'offre de culture de cette période de crise, comme d'ailleurs plusieurs institutions, on n'a pas parlé de l'Opéra ou de la Comédie-Française, qui en donnant là aussi libre accès à beaucoup de leurs œuvres, ont contribué à ce que la fermeture des lieux de culture ne soit pas pour autant un désert culturel pour les Français, et je pense que c'est très important. Mais on a été dans une période où c'est la distribution de contenu à tous qui a été privilégiée. Il faut absolument aujourd'hui soutenir l'amont, c'est-à-dire la création audiovisuelle et culturelle.
Un immense merci Simone Harary-Beaulieu et Joël Farchi d'avoir été avec nous aujourd'hui depuis vos domiciles respectifs. Joël Farchi, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage paru il y a quelques semaines aux Presses des Mines, La culture des données, intelligence artificielle et algorithmes dans les industries culturelles. On se quitte avec le titre Wrong Gun de Len Parrott et demain nous reviendrons sur l'histoire bien française du statut d'intermittent en compagnie du sociologue Mathieu Grégoire et d'Isabelle Feldman qui est secrétaire générale chez Audience, le groupe chargé de la protection sociale des professionnels de la culture. Mais d'abord, dans un instant, vous retrouverez La Compagnie des œuvres avec Mathieu Garrigou-Lagrange. I'm sorry you waited in vain for magic to happen. Autumn came so early this year. All things pass, fade and wither. We shed a light on this very first night when you placed your head on my shoulder. It's funny how far and distant we are now from this first.